Tu vas voir comment je vais leur faire peur.
T'es bête, tu nous as fait peur.
Ah, on se marre bien à faire peur aux autres, hein. Mais la peur, c'est aussi un sentiment bien complexe. Parfois déstabilisant, parfois vital, mais qui fait tout le temps réagir.
En tant qu'éducateur en formation, on a exploré cette question. Nos peurs toutes personnelles, et puis celles qui sont liées à notre travail. Allez, n'ayez pas peur de nous suivre.
Il est dur d'échouer, mais il est pire encore de ne pas avoir tenté de réussir. Je sais plus trop où j'ai entendu cette phrase, mais je trouve qu'elle sonne bien. Dans la vie, on se fixe des objectifs et on fait en sorte de les atteindre. Parfois on y arrive, parfois non. Moi, à l'école, j'ai toujours eu peur d'avoir des mauvaises notes ou de redoubler. D'abord, peur pour moi, peur de pas réussir comme les autres, mais aussi, je crois, surtout peur de décevoir ma famille. Quand j'ai redoublé ma deuxième année de droit, j'ai vraiment eu peur de pas réussir et peur d'avoir honte à cause de cet échec. Quand je l'ai annoncé à ma mère, elle m'a répondu « Fais ce que tu peux et si tu arrives pas, ben tu feras autre chose ». Je pense qu'elle a voulu me rassurer et être bienveillante, mais en fait, elle m'a plutôt démoralisée. J'avais l'impression de la décevoir. C'est comme si tout s'écroulait. Je me suis vraiment sentie nulle. Je voyais mes copains contents avec leur bulletin de notes, et moi j'allais refaire une année, toute seule. Je me suis dit que je pouvais pas rester comme ça, à me laisser abattre. Du coup, j'ai digéré la nouvelle, et je suis repartie pour une nouvelle année. Je pouvais pas lâcher l'affaire et abandonner comme ça. Ça m'a motivée à travailler encore plus, et j'ai validé mon année. Cette peur de pas réussir, aujourd'hui, elle m'oblige à être exigeante envers moi-même. Ce fonctionnement, je l'ai construit tout au long de ma scolarité. Et après, je l'ai transposé dans mon travail d'éducatrice. C'est vrai que, en y réfléchissant, je me laisse pas le droit à l'échec. Pourtant, avec les jeunes, je suis pas aussi exigeante. Au contraire même, j'aurais plutôt tendance à essayer de les rassurer et leur dire que c'est normal qu'on a tous connu l'échec. Je crois que tout le monde, à un moment de sa vie, a eu peur d'échouer. Je crois aussi que c'est important de vivre des échecs, et surtout d'en tirer des leçons. Tous ces moments où je me suis sentie nulle, où j'ai pas réussi, ou en tout cas pas du premier coup, pas de la même manière. Aujourd'hui, je suis contente de les avoir vécues. Parce que finalement, la réussite, elle a encore plus de saveur.
Quand on me demande si je sais nager, moi je réponds souvent, en fait, je sais surtout ne pas me noyer. L'eau, pour moi, ça fait partie de ces peurs inconscientes. Celles qui se transmettent de génération en génération, celles que l'on redoute sans jamais y avoir été confronté. Les « fais attention, c'est dangereux » dit par les parents à leurs enfants. Pour moi, ce fameux « fais attention, c'est dangereux », ça a été l'eau. Mon enfance, je l'ai passée dans une maison bordée par une rivière. Rivière qui avait bien failli emporter mon père. Tombé dedans quand il était petit, il a été sauvé par son frère, puis sermonné par son père. Et comme un traumatisme, lui qui nageait si bien en était devenu incapable. Et moi, tous les jours, on me répétait « Fais attention, t'approches pas de l'eau, c'est dangereux. » Je voyais les autres enfants se baigner dans la rivière, mais moi je faisais attention. Puis j'ai grandi, on a quitté cette maison et sa rivière. J'ai jamais approché, dans laquelle je me suis jamais baignée. Puis est arrivé l'école et le sport. Et là, le pire. La natation. L'angoisse absolu, irrationnel, déraisonnable, du mot dont on m'avait appris qu'il fallait se méfier. Et moi, conditionnée, j'avais peur. J'y arrivais pas. Les cours s'enchaînaient, les dispenses aussi. Et c'est comme ça que ça s'est terminé, l'école et sa natation. J'ai jamais appris à nager. Puis un jour, j'ai décidé de me jeter à l'eau. Oui, je me suis jetée à l'eau. Vous avez bien entendu, au sens propre comme au figuré. Je me suis inscrite à la piscine. Pour apprendre à nager et réussir à apprivoiser cet élément qui m'effraie encore. Aujourd'hui, je sais toujours pas très bien nager, mais j'apprends difficilement. J'essaie, je tente de m'améliorer. On m'a transmis cette peur. J'en ai bien compris la raison. Le traumatisme de mon père et l'envie qu'il avait de me protéger. Paradoxalement, cette protection m'a freinée. Je me suis empêchée de vivre certaines expériences à cause de cette peur. Peur que je tâcherai de pas transmettre à mon tour, mais qui, inconsciemment, me suivra toute ma vie. Comme une ombre. Un héritage qu'on choisit pas.
Je suis le lieutenant Patrick Lavadie, donc chef de centre du centre de secours de Ganges. Donc là, ce que je vous propose, c'est que ce jeune homme confirmé va se mettre au volant du fourgon, monter à l'intérieur, tu fais un tour dans la cour juste avec Giro de Thon. Voilà, allez-y.
Vous êtes à combien là dedans? Vous rentrez à combien là?
Sur la partie arrière, vous êtes 6.
Ouais.
D'accord. Sur la partie avant, donc là, il y a le chef de véhicule, donc il est bien au bon poste. Donc il est en train de monter à mes côtés. Moi, je suis le conducteur. Ça marche.
Ça va pour entrer dans l'appartement.
Ah ouais.
Donc on a une personne qui est disparue de l'appartement. C'est tout ce qu'on a comme avis. Comment on peut
s'appeler ? Monter dans un camion de pompiers, c'était comme un rêve de gosse. Mais en réalité, ce qui nous a poussé à aller dans une caserne, c'est autre chose. On se doutait bien qu'on allait rencontrer des personnes qui sont confrontées au pire de nos peurs. Celle des accidents, celle de la mort.
Vous, aujourd'hui, vous êtes sapeur-pompier professionnel.
Tout à fait.
Depuis combien de temps exercez-vous dans cette caserne ?
Alors, dans cette caserne, ça va faire un petit peu moins de 10 ans. Ça fait 25 ans que je suis dans la profession.
Je vous ai évoqué tout à l'heure le thème de la peur. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous auriez un mot à nous dire sur la peur, si je vous laisse très libre de répondre?
Mais déjà, en fait, la peur, chez nous, on l'assujettit un petit peu au courage. Parce que je dirais, en fait, le courage, chez nous, c'est pas l'absence de la peur, mais la maîtrise de la peur. Si il y a l'absence de la peur, on en va en fait sur de l'inconscience, une incapacité d'analyser une situation. Et on n'est pas des têtes brûlées devant une situation aussi dramatique qu'elle ne peut être, que ce soit du feu, du secours routier, où il y a les gens qui crient, où on est face à des drames humains, matériels. Il faut qu'on prenne suffisamment de recul. Et évidemment que la peur est toujours là, l'émotion est toujours là, mais on doit justement la contenir, l'analyser. Pour être au mieux, pour répondre efficacement, que ce soit pour protéger des biens ou des personnes.
Nous, de notre côté, on a essayé un petit peu de s'imaginer à votre place et de penser à quelques situations de peur. On se demandait comment vous gérez, par exemple, la peur de l'usager en face de vous, quelqu'un qui sera en situation de panique.
La panique, très souvent, la personne qui est accidentée, mais souvent, elle est traumatisée, elle est en état de choc. Donc, en fait, elle sait qu'elle est prise en charge. Donc, on a peu ou pas de problème avec ces personnes-là. C'est surtout contrôler les personnes environnantes. Donc, on a des petites techniques, par exemple, notamment lorsque vous arrivez dans un bien familial où il y en a un enfant, par exemple, qui est en train de décéder, vous avez ses parents à côté. Ben vous imaginez un petit peu on peut pas avoir le contrôle de ses parents. Donc on va leur orienter, à leur donner des missions, aller nous chercher leur carnet de santé. On a besoin de ci, même si on a besoin de rien. Mais on va essayer de les occuper, de les canaliser pour que nous on puisse faire notre travail.
Et justement, cette peur de la mort dont vous avez pu nous parler, est-ce qu'il arrive que vous y pensiez souvent?
Non. Non, parce qu'en fait, après, autant il faut être parano de la peur, du danger, mais il ne faut pas non plus que ce soit un poids. Il y a des fois où j'ai fait des prises de risque, mais elles ont été finement pensées, analysées. Voilà, où je dis, là, il faut que je fasse ce sauvetage, parce que je peux sauver la personne. Donc, j'ai fait le choix de me mettre en danger. Alors, effectivement, lorsqu'on fait ces actions-là, non, je ne pense pas à ma famille, non, je ne pense pas, parce que là, ce serait dangereux. C'est là où il faut se mettre en la fonction tunnel et être face à soi-même.
J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Est-ce que vous arrivez clairement à parler entre vous et à vous dire, ben oui, sur cette intervention-là, j'ose le dire, j'ai eu peur?
Mais vous savez, vous le sentez, quand vous rentrez dans une maison où tout est embrasé, vous n'avez aucune visibilité, vous rampez, et vous sentez ce qu'on appelle chez nous le binôme, puisqu'on travaille à deux, mais vous sentez que lorsque vous le tenez sur l'avant-bras, et bien, c'est tendu. Voilà, sa respiration, elle est un peu suffocante. Suis-moi, colle-moi, on y va. Voilà, on va le rassurer, et bien sûr qu'on a peur.
Vous la ressentez, mais maintenant, est-ce que vous arrivez à l'exprimer?
Ah, bien sûr, je vois là où vous venir, mais le pompier ne dira pas, j'ai eu peur. Il va trouver d'autres adjectifs, parce que pour lui, il va le prendre comme une faiblesse, il va dire, j'ai pas été capable d'assumer pleinement ma mission. Ou quand on travaille sur la voie publique, on voit le médecin, il prend la mission, bien sûr qu'il a peur, on voit sa main tremblante, il va pas dire j'ai peur, il va pas le dire.
Moi, Moi, j'ai peur de rien.
Moi, j'ai la trouille.
Mouiller son slip, la pétoche.
Faire dans son froc.
Rousse.
Les miquettes flippées.
Vous avez vu le mec là-bas?
Oh, ouais, vas-y, va lui parler, va lui parler.
Mais non, je peux pas.
Mais si, vas-y.
Allez.
Non, mais non, je peux pas, allez-y.
Vas-y, allez.
Non, je peux pas.
Ouf, plus de peur que de mal. Répétez après moi. La peur n'évite pas le danger.
Avant d'être éducateur et même avant mes études, j'ai été élève dans une école taurine. Et la confrontation entre l'homme et le taureau, c'est ce que je trouvais le plus beau. J'ai toujours voulu ressentir ce sentiment de peur. En fait, je l'ai un peu poursuivi pour mieux le connaître. Je le trouvais fort, prenant, la peur avant et la détermination pendant. La peur du torero m'a toujours fait relativiser par rapport à ma propre peur à moi. Je crois que la question n'est pas celle du dépassement de la peur, comme on dit souvent, mais celle du vivre avec. Il faut réussir à se l'approprier, à l'intégrer. On n'est pas dans la fuite de la peur, mais dans son acceptation. Et c'est ce que la tauromachie m'a appris, à la fois dans sa pratique, mais aussi dans son observation. Les rituels, les superstitions permettent de vivre au plus près de sa peur, sans la renier, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de superstitions chez les toreros, hein. Certaines, je les ai fait miennes. Il y a aussi l'ambiance feutrée d'avant les corridas, ça c'est très marquant. On dit qu'elle permet de faire émerger la grâce, qu'on appelle le duende. J'ai aimé ça et j'aime encore, à tel point qu'il m'arrive de me replonger dans ces ambiances. On pourrait faire un parallèle entre la peur du torero et celle de l'éducateur, à savoir qu'elle est aussi contraignante que stimulante. D'abord, on passe de l'ombre à la lumière et c'est assez fort. Il faut être capable de se préparer, de faire le travail de l'ombre, mais aussi être capable d'affronter, de se mettre en danger, en difficulté. Quand on rentre dans un foyer, il y a un truc comme « ça y est, j'y suis ». C'est ça que j'aime le plus en fait. Ça peut sembler bizarre à dire, mais j'aimais beaucoup l'ambiance en détention, les cris, les insultes, parfois les acclamations. C'est un peu comme une arène. On y rentre et on sait que tout va s'y jouer, que nous sommes attendus au tournant et qu'il faudra être infaillible. C'est comme ça face au taureau, on connaît nos faiblesses, mais c'est notre technique, notre volonté qui nous fait avancer. Ensuite, il y a la relation avec le public. On est souvent face à plusieurs jeunes. On est observé, jugé, apprécié ou vilipendé. Il s'agit d'y faire face. C'est le côté peur et de s'en servir comme stimulant. Le public amène, il me semble, de la responsabilité et de la confiance. C'est un moteur pour moi. Enfin, il y a le travail sur la relation et l'énergie qui s'en dégage. Si on doit capter la charge, il s'agit aussi de la conserver au plus près. En canalisant l'énergie, en recevant la charge parfois très violente, on peut comprendre les ressorts. Le conflit peut faire avancer la relation et son analyse. Et pour travailler avec cette relation, il faut observer et s'adapter en permanence. En tauromachie, on parle de vista. Je mets donc en convergence mes deux pratiques, taurine et éducative, et c'est bien cette intense relation avec la peur que je travaille dans ces deux situations.
La 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 la. C'est bon, il est calmé. Mes parents m'ont toujours dit quand j'étais petite qu'il fallait fredonner ou chanter lorsque je passais devant un chien attaché. Dans ma rue, il n'y avait aucun mur entre les maisons. Du coup, quand je rentrais de l'école ou quand je m'amusais dehors, je voyais toujours les chiens des gens attachés dans les jardins. Quand je passais, ils aboyaient tellement que j'avais qu'une peur, c'est qu'ils se détachent d'un coup et qu'ils me sautent dessus. C'est mes parents qui me disaient qu'il fallait pas trop traîner ou les regarder. Je me rappelle qu'ils me disaient que les chiens sont malheureux attachés. Et que c'est pour ça qu'ils sont agressifs et veulent nous mordre. Ça m'a toujours foutu les jetons. Chanter était LA solution. Du coup, j'ai grandi avec cette idée-là. Et même encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de fredonner quand je vois un chien attaché. C'est marrant quand on y pense. Je me demande même si c'est une vraie peur ou si c'est moi qui me l'invente, cette peur. Au final, je sais même pas si le fait de chanter le calme lui ou moi. Je me rends compte que pas mal d'animaux font flipper. Comme les serpents, par exemple. C'est fou parce que, même quand je les vois pas, je les imagine. En fait, si je vois un serpent, dans ma tête, il faut que je le regarde longtemps. Si je le regarde une seconde, c'est sûr que je vais faire un cauchemar dans les jours qui suivent. Vous savez, comme quand on voit une image rapidement et qu'on en rêve la nuit d'après. On se demande toujours d'où elle vient, cette image. Je suis pas en plein délire dans ces moments-là, je me considère juste réaliste, parce que ça marche pour moi. En fait, c'est sûr, j'ai inventé plein de techniques, pas loin de la pensée magique. Si j'évite, si je chante, si je regarde, tout va bien se passer. C'est surtout le regard des autres qui te fait penser que tu délires, alors qu'en fait, non. Le tout, c'est d'en discuter pour qu'ils comprennent. Mais c'est pas si simple, je vois dans leur regard que ça peut paraître démesuré. Quand mon entourage me force à regarder ou même à toucher ces animaux, ils pensent que ça va aller. La blague. J'ai du mal à identifier d'où elles proviennent ces peurs. C'est certainement mes parents qui me les ont transmises, pour me protéger ou peut-être que je me les suis créées toute seule. Mais je sais qu'elles ont un impact dans ma vie. Heureusement que j'ai trouvé ces techniques. Même si elles peuvent vous paraître ridicules, moi je vous dis qu'elles me permettent d'échapper à mes peurs. Vous devriez essayer pour voir. Je suis sûre que vous en avez une de technique magique.
Donc sur les hauteurs de Cazillac, on est sur le centre équestre L'Étrier des Cévennes. J'aperçois des chevaux au loin, là, alors on se dirige vers le centre avec pas mal de chiens qui nous entourent pour nous peut-être nous dire bonjour.
Ils sont gentils, hein. Ils doivent être habitués.
On voit un soleil.
Oh là, donc un cheval qui est dans le manège là, avec un dresseur, j'ai l'impression. Et donc, quelle est votre activité ici, justement?
Donc, on est éleveur de chevaux lusitaniens, école d'équitation et gîte.
Alors, comment ça se passe, la relation avec l'animal? Parce que finalement, bon, on travaille sur la peur, par exemple. Donc, est-ce que vous avez rencontré, vous, des situations de peur? Ou est-ce que vous voyez aussi des gens avoir des appréhensions, des peurs avec le cheval? Alors, comment vous travaillez cette question de la peur?
Eh bien, c'est une question qu'on peut pas dire en deux mots, là, tu vois. En fait, les jeunes, quand ils ont peur, eh bien, ils sont à côté, on leur explique comment brosser un cheval, ce que c'est, toute l'approche. On va pas les faire monter de suite s'ils sont paniqués. Mais le cheval donne beaucoup aussi, donc voilà. Puis on les met sur des chevaux gentils. Hein. Mais quand ils ont peur, ils transmettent la peur au cheval aussi, donc ça marche pas, quoi. Toi, tu vas pas avoir peur ou tu vas appréhender, mais tu vas faire confiance à ce que je te dis parce que c'est un cheval gentil, ça ira. Mais si au fond de toi tu restes braqué dans ta tête, c'est comme tout dans la vie. Et quand on reste braqué dans sa tête, on n'avance pas, quoi. Et un cheval, c'est pareil.
Et l'animal, il le ressent.
Ah ben ça, oui. Ce sont des médiums, hein. Ça veut dire les chevaux, ce sont des médiums. Hein. Ça, c'est sûr. Hein.
Parce que moi, par exemple, je pense que j'ai une certaine appréhension avec les chevaux. Et souvent, ils cherchent à me mordre. Donc je me demandais si c'était moi qui transmettais ça.
Oui, ils veulent te réveiller un peu. Tu vois, ils veulent te dire, ah, je suis là, bouge-toi un peu, bouge-toi.
Vous pouvez nous faire découvrir un peu les animaux, le centre, enfin tout ce qu'il y a. J'ai vu un pan aussi, là. Ça fait partie des chevaux, ça?
Oui,
ça fait partie des chevaux.
Oui, ça fait la nature.
Ouais, voilà.
Oui, c'est parti.
Donc là, on contourne le manège, parce qu'on était sur le manège. Non, ce qu'on appelle ça, manège? Carrière? Non, manège.
Bon. Manège.
Manège. Donc là, on descend.
Alors, je ne vais pas vous amener au milieu des juments, parce qu'elles sont tic 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 tic. Elles vont savoir qui tu es, pourquoi et comment, et vous allez mettre la panique.
Elles sont curieuses.
Oui.
Trop curieuses.
Ça va, tout le monde. Si, on pourra s'approcher. Puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de boue. Lui, c'est un poulain de 4 ans, qui est entier.
Un poulain?
Oui, 4 ans. Qui est entier et qui a les hormones qui se réveillent.
Ah.
Voilà. Alors, vous voyez, cheval, pour ceux qui ont peur, ce cheval, il est peureux, tu vois. Et justement, il travaille ici, il fait passer ici ou quoi, pour que...
Parce qu'on est à côté?
Non, pour l'habituer, tu vois, pour qu'il domine sa peur.
D'accord.
Parce que dans notre tête, quand on veut, on peut tout dominer. Il suffit simplement de le vouloir.
Ça, c'est une belle notion de vie.
Mais est-ce qu'un animal, justement, parce que quand il a peur, il transmet de la peur aussi, lui. C'est-à-dire que quand il a peur, peut-être qu'il ne met pas à l'aise aussi le cavalier, non?
Oui, mais après, c'est les tempéraments. Il y a des gens, ils sont toujours des dominés ou des gens qui ne veulent pas. Parce que dans leur tête, ils n'ont pas fait le travail de dire « je peux le faire, je peux le faire ». Voilà, c'est ça. C'est vrai. On peut tous ce qu'on veut. Maintenant, bien sûr, moi, si je dis que je vais traverser comme ils ont fait, là, je pense que ça s'appelle, c'est le cercle de Navacelle sur une ficelle. Ça, il faut pas être. Je vais jamais le faire, quoi. Non.
Ça
non.
Fait peur.
Ah ben, j'ai pas les capacités à faire ça. Je veux dire, tu vois, il y a des choses comme t'as pas les capacités, tu peux pas faire, quoi. Tu vois. C'est comme je mettrais, mettons, jamais quelqu'un débutant sur son verre. C'est idiot, quoi. Il faut faire les choses dans la logique. Hein? Non, c'est, il faut être dans le juste, dans le vrai, quoi.
Donc il faut être téméraire, mais pas inconscient.
Pas inconscient, mais non.
J'ai eu 24 ans il y a peu, et pour tout dire, ça fait qu'un peu plus de 2 ans que je peux dormir seule. Je t'explique. Je devais avoir 4-5 ans, et ma meilleure amie d'enfance s'était faite cambrioler. Quand elle me l'a raconté, ça avait l'air tellement horrible, j'en ai fait des cauchemars pendant des années, d'où mon incapacité à dormir seule. Enfin, pas seule dans un lit, hein, seule dans une maison ou un appartement. Il fallait constamment que quelqu'un soit là, la nuit au cas où. Et puis, il a bien fallu grandir. Et par la force des choses, en vivant seule, la peur s'est estompée. Elle a presque disparu. L'avantage avec cette peur, c'est que je la connaissais bien. C'était comme une vieille amie, et finalement, j'organisais tout pour qu'elle et moi vivions en paix, ou du moins le plus possible. Par exemple, lorsque mes parents et mes frères partaient pendant quelques jours, tous mes potes le savaient au moins un mois à l'avance. Du coup, ils se relayaient pour dormir avec moi parce que c'était comme ça. C'était mon fonctionnement et mon entourage le savait. Tout ce cirque s'est vraiment arrêté avec l'arrivée en formation, quand je suis sortie de mon cocon. En fait, jusque-là, j'avais eu le choix. C'est-à-dire que je m'étais suffisamment organisée pour vivre avec cette peur. Ça me permettait de la contrôler et tous les tocs comme fermer 15 fois une porte, revérifier 15 autres fois qu'elle est effectivement fermée, faire le tour des pièces pour s'assurer qu'aucun méchant voleur ne m'attendait quelque part, etc. Eh bien, tout ça, c'était un moyen de me réguler. Du coup, quand j'ai plus eu le choix, je suis passée au-dessus. J'ai fait avec. À l'inverse, enfant, j'adorais, encore maintenant d'ailleurs, les sports ou activités à sensation forte, ce qui vous donne une bonne dose d'adrénaline. Peu soucieuse du danger, sûrement, j'avais pas peur. Et puis, il y a quelques années, je me suis retrouvée bloquée face à un anneau en bois, suspendu au-dessus du vide. J'étais incapable de m'engager malgré mon harnais et mes mousquetons solidement accrochés à la ligne de vie. On pourrait dire que l'enfant téméraire s'est enfui là où la peur a fait son nid. En fait, cette peur a ma surprise. Je me dis que ça doit venir de la prise de conscience, le moment de lucidité où on se dit « Ah oui, là, ça peut être dangereux ». Du coup, ça a rendu la session d'acrobranche plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Bref, tout ça pour te dire que ma peur, ou la peur, évolue. Un peu comme nous tous finalement. Ça fluctue. On en neutralise une pour en avoir une nouvelle et ainsi de suite. C'est le temps qui joue avec nous, avec nos peurs.
La peur, c'est un sentiment qu'on ne contrôle pas. Tout comme la situation qui la génère d'ailleurs. Cela s'impose à nous. Pour autant, il faut quand même bien vivre avec sa peur. Parfois, on ne vit pas personnellement les choses, mais on est impacté par l'histoire de ce que d'autres ont pu vivre. Comme de connaître le bonheur qu'un proche n'a pas pu connaître. J'ai toujours su qu'on pouvait grandir sans l'amour et la présence de sa mère. Mon père a perdu la sienne très jeune. Ce drame familial a impacté mes représentations de la vie. Souvent, on se demande, mais pourquoi moi ? Moi, je me suis alors demandé pourquoi est-ce que ça pourrait pas être moi. Si lui, la vie l'a empêché de grandir avec ce bonheur, il fallait bien que je puisse me préparer à y renoncer moi aussi. Je me construisais un scénario afin de ressentir cette souffrance, de l'éprouver. En fait, je pensais à une multitude de scénarios différents. Bon, rassurez-vous, je n'étais pas non plus complètement flippée. C'est pas une peur qui m'a paralysée ou empêchée d'avancer. Mais j'avais sûrement besoin de l'appréhender pour la mettre à distance et me sentir sécurisée. En grandissant, j'ai réussi à y penser de moins en moins souvent et à ne plus avoir cette peur. Aujourd'hui, je sais que la mort fait partie intégrante de la vie et qu'en plus, ce n'est pas en craignant quelque chose que cela l'empêchera d'arriver. Pourtant, il m'arrive encore parfois d'avoir besoin de mentaliser le fait que quelque chose allait mal se passer afin d'atténuer ma potentielle déception. Je pense que cette partie de mon histoire peut m'aider dans mon métier d'éducatrice. Je suis bien placée pour savoir que l'histoire familiale d'un jeune peut avoir des répercussions sur son rapport au monde et à l'autre. Ces jeunes qu'on rencontre sont souvent fragilisés par des événements difficiles. Je suis particulièrement sensible à cela. Mais en fait, qu'est-ce qui leur appartient ? De quoi ont-ils hérité malgré eux qui impactent aujourd'hui leurs croyances et l'image qu'ils ont d'eux-mêmes ? Oui, moi j'ai pu avoir peur de la mort. Mais ces jeunes, quand je les vois fonctionner dans ces univers mortifères, je me dis que ça leur a procuré un autre type de peur. La peur de vivre sa vie.
Centre de formation de la protection judiciaire de la jeunesse. Une formatrice, 2 stagiaires. Séance de décryptage professionnel.
Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un temps qui est dédié au retour d'expérience de vos terrains de stage. Vous deviez réfléchir sous le prisme des émotions ressenties. Alors j'aimerais que chacune d'entre vous, vous puissiez évoquer une ou plusieurs situations où vous avez dû faire face à une émotion, sans oublier bien sûr l'articulation entre le prescrit et le réel. Alors Cassandre, est-ce que tu veux bien commencer ?
Oui, je veux bien commencer. En stage, j'ai vécu une situation qui, je pense, après coup, est venue interroger mon rapport à la peur. En fait, lors d'un moment de crise, un jeune a été contenu par un de mes collègues. Mon seul but, c'était de le faire redescendre en pression et d'isoler les risques pour lui et pour mon collègue. Dans le feu de l'action, le jeune est arrivé vers moi précipitamment en me jetant un coup de poing qu'il a stoppé net à l'approche de mon visage. Donc sur le moment, l'adrénaline était bien plus présente que les émotions, mais quelques jours plus tard, j'ai compris que j'avais été impactée. En fait, dans les jours qui ont suivi, j'ai été réveillée en sursaut par un coup de poing.
Ah oui, mais moi aussi, une fois, ça m'est arrivé. Il y avait un jeune qui avait pu être violent. C'est vrai que j'en avais rêvé aussi.
Alors, j'entends que ça te fasse réagir, Camille, mais on va laisser Cassandre terminer son propos, d'accord ?
Alors oui, c'était qu'un rêve, mais voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que chaque service peut être synonyme de risque auquel on ne s'attend pas. Et ce qui me fait peur, c'est que ces craintes liées aux situations de violence, elles modifient ma façon de travailler. Chaque jour est un jour nouveau, j'ai pas envie de me conditionner pour aller au boulot, ni de toujours être dans l'expectative d'un coup.
Donc alors toi, Cassandre, l'émotion que t'as expérimentée, c'est la peur. Camille, est-ce que tu peux nous parler à ton tour d'une situation ?
Il y a une situation qui m'a beaucoup marquée, en fait, c'était pendant une soirée au centre fermé, où il y a un mineur qui s'est scarifié son avant-bras, c'était dans sa chambre. En fait, à la vue du sang qui était impressionnante, j'ai directement mis ma main sur ses plaies, je l'ai désinfectée. Et avec du recul, je me suis demandé si j'avais eu le bon réflexe, si j'avais bien réagi par rapport à la situation. Et du coup, j'ai eu peur pour ce jeune, à savoir s'il n'allait pas se mettre en danger de façon plus radicale par la suite.
Alors déjà, c'est bien parce que vous avez compris l'exercice de réflexion vers lequel on souhaitait vous amener. Vous mettez bien en avant dans vos situations une émotion particulière, à savoir la peur, et vous pointez du doigt ici les différentes peurs qu'on peut rencontrer dans le travail éducatif. Mais pour aller un peu plus loin dans la réflexion, quelles questions professionnelles ces situations elles peuvent faire émerger chez vous ?
Moi, je me demande si on peut vraiment garantir le bien-être général des mineurs qui sont en état de souffrance psychique. Et face à cette situation, je me suis sentie impuissante. Et du coup, je me dis que si ce genre de situation se reproduit, en fait, ça me bouleverserait trop. Et je pense que j'en sentirais sûrement de l'usure professionnelle.
Perso, je partage pleinement le sentiment de Camille. Je me demande vraiment comment je peux réagir si je suis confrontée à ce genre de situation à plusieurs reprises. Et être usée, ça me fait peur.
Alors, je tenais vraiment à vous remercier, les filles, de vous être dévoilées ainsi. Et je souhaite également vous rassurer. C'est sain de ressentir de la peur dans son travail. Et concernant plus précisément cette question de l'usure que vous avez soulevée, je pense sincèrement que le fait que vous ayez conscience de ce risque, ça va vous permettre de rester vigilante. Et maintenant, il tient qu'à vous d'en faire un moteur pour votre travail.
En ayant un enfant, un monde nouveau s'est ouvert à moi, celui de la parentalité. Ce nouveau statut, celui de mère, amène avec lui son lot de bonheur bien sûr, de moments intenses, de questionnements, mais aussi de peurs, parfois rationnelles, mais aussi irraisonnées et incontrôlables à d'autres moments. Peur pour ce petit être sans défense et si dépendant. Est-ce que je fais bien les choses ? Est-ce qu'il est en sécurité ? Est-ce que je parviens à lui porter tout ce dont il a besoin pour se développer sereinement ? C'est ainsi que s'installe le doute quotidien. Une vie comprend plusieurs sphères, notamment le privé et le professionnel. Aujourd'hui, je suis maman et je suis éducatrice. Est-il réellement possible de dissocier ces deux rôles ? Suis-je une maman éducatrice ou une éducatrice maman ? Je pense que l'éducation que j'offre à mon enfant est imprégnée des valeurs qui m'animent professionnellement. Tout comme ma posture éducative est marquée par une nouvelle sensibilité, celle des peurs maternelles. Je ne suis pas sûre qu'il soit si simple de faire une coupure nette entre le privé et le professionnel. Pas simple de faire fi de cette symétrie entre sa situation familiale et la situation des familles que l'on rencontre. Le concept d'évaluation du danger, l'une des missions de mon travail d'éduc, revêt aujourd'hui pour moi une autre dimension et génère la peur des conséquences d'une sous- ou d'une surévaluation des risques. Sans l'avoir anticipé, le fait d'être mère a été un apport dans ma construction professionnelle. Dans un sens, ça me rend peut-être plus vigilante aux signaux de souffrance chez un enfant. D'un autre côté, ça me permet aussi de relativiser certains éléments que j'observe. Parfois, quand on est parent, tout ne se déroule pas forcément comme on l'avait imaginé. Et avec du recul, on se rend compte qu'on a merdé. Pour autant, si j'extrapole, est-ce que si la vaisselle déborde chez moi, que le linge n'est pas rangé, que les jouets de mon fils traînent dans le salon, ça signifie qu'un éducateur doit intervenir chez moi ? Parfois, à chercher le danger, car j'ai été mandatée pour, est-ce que ça ne me fait pas transposer sur les familles des attentes éducatives que même moi je parviens pas personnellement à atteindre ? Donc au final, vous l'aurez compris, que ce soit dans le cadre perso ou dans le cadre pro, devenir parent bouleverse complètement une vie et peut changer sa pratique professionnelle. Par contre, autant être maman a changé mon regard sur la parentalité, autant j'ai pu constater que bon nombre de collègues qui n'avaient pas d'enfants avaient déjà intégré cette dimension dans leur pratique. Donc les collègues, juste une dernière chose. Ne cherchez pas à avoir des enfants pour être plus pro. Vous l'êtes déjà. Faites-le pour le plaisir.
La peur, ça se passe à l'intérieur, mais quand on l'exprime, ça s'entend. Et vous ? Si on vous demandait de descendre dans une grotte au bout d'une corde, vous seriez comment ?
Ouf. Mais alors, je fais quoi, là, du coup ?
Descends-toi.
Oh là là.
Ok. Tu mets à l'arrière ?
Bah, j'y suis, là. Hein.
Vas-y, lâche les mains, hein.
Mais je m'accroche où ?
Ici, la corde bleue.
Putain.
Plus bas.
Là ?
Ouais.
Oh. Non, mais je peux pas, là.
Donne-moi le tournoi.
Non, mais je suis bien accroché là.
Oh, ouais,
non, mais je vois pas mes pieds, je vois pas mes pieds. Je suis dans le vide là. Je suis dans le vide, je m'accroche à quoi?
Rien le pied, je
t'ai
fait. Rien le pied. T'es tenu à quoi? Lâche la main.
Ah, rien là, je me.
Allez,
oh là là. Non, mais. Et mes pieds, ça se passe comment? Je fais
voilà,
n'importe où.
Voilà, cette position, tu la gardes jusqu'en bas.
Ok.
Sauf qu'on n'a plus de rocher. Mais cette position là, t'es très bien.
Si mes parents me voyaient.
Laisse glisser.
Oh là là. Ah purée. Oh là là. Non mais je crois que. Ouais. On peut pas remonter là ? Putain.
Voilà, laisse descendre.
J'aurais pas dû.
Pas la bleue, la rose.
Ouais, vous trompez pas, hein. Non mais je rigole, mais j'ai pas du tout envie de rigoler après ça. Ah ouais, c'est hyper nerveux là, non mais. Oh purée, je suis pas bien là, Michel.
Je comprends.
Ça me va pas du tout. Ah là là, je glisse.
Va à droite. Laisse-toi aller à droite, mais laisse descendre.
Non mais y a rien à droite.
Ouais,
je suis dans le vide.
Ouais, mais c'est pas grave, vas-y, continue.
Voilà. Non mais, ah non, je peux pas remonter.
Ah non, c'est pas possible.
Non mais je peux pas, purée, pourquoi j'ai fait ça?
Allez, hop. C'est bien. Tu descends.
Bah ouais, mais.
Voilà, laisse descendre, voilà, développe les mains. Voilà, c'est très bien, encore. Voilà, tu laisses comme ça, c'est très bien, c'est ça.
Oh là 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 là.
Tu mets un même temps. Maintenant, tu laisses glisser la corde.
J'ai beaucoup à faire encore là? J'ai fait la descente la plus longue du monde, c'est ça? Non, après ça va, mais alors le plus dur c'est de se lancer dans le vide, quoi.
On n'a pas tous peur des mêmes choses en fait. Moi j'ai peur du vide, j'ai peur de plein de choses, j'ai peur des rumeurs, de l'inconnu. Ouais, j'ai peur de l'inconnu, mais j'ai pas peur des inconnus bizarrement. En fait, j'ai jamais ressenti cette peur de l'étranger, par exemple. Ça me fait penser. En 2014, j'habitais à Boulogne-sur-Mer, à 25 minutes de Calais. Vous savez, cette fameuse ville où les migrants s'étaient installés et avaient construit la jungle de Calais. À cette époque, le contexte à Boulogne était pesant. Le sujet était dans toutes les bouches, tous les matins, au travail. On savait combien le collègue avait croisé de migrants le long de l'autoroute, entre Boulogne et Calais. Du coup, les migrants par-ci, les migrants par-là, ils étaient responsables de tout et surtout de toutes les horreurs. Ils faisaient peur aux gens. Pour autant, je me méfiais de ce que je pouvais entendre. Même si les médias, malheureusement aller dans ce sens. J'avais vraiment peur qu'il m'influence. Du coup, je me suis organisée pour aller à la rencontre de ces personnages fantasmés, célèbres malgré eux. J'ai pris contact avec une association. Des volontaires m'ont encouragée à me déplacer et à venir à leur rencontre. J'ai mis du temps à me décider, mais je me suis lancée. J'étais attendue par l'une des responsables. Arrivée sur place, vraiment, c'était la jungle. Incapable de la retrouver. Du coup, je l'ai traversée. J'étais accueillie par des sourires, des regards, des enfants, des bonjours dans des langues que je ne connaissais même pas. C'était le début d'une aventure qui a duré 8 mois et j'en ai des souvenirs plein la tête. J'ai découvert, en fait, des communautés en détresse qui cherchaient simplement la paix et la tranquillité. Tu vois, ils ont fui la guerre, ils ont fui l'horreur, ils ont fui juste par peur. Et si ton pays entrait en guerre, toi, que ferais-tu? Mets-toi à leur place et rencontre-les, tu comprendras. Mais on est pareil, en fait. Face à nos peurs, on recherche la tranquillité. Est-ce un crime? Quand j'y repense, la peur, elle peut entraîner du rejet, de l'exclusion. Mais pour moi, ça a été un véritable moteur de rencontre humaine, mais surtout de souvenirs inoubliables.
Bon, t'es prête?
Ouais, c'est bon.
Donc tu sais, c'est un état qui a lieu plusieurs fois par jour.
Les États-Unis?
Non, tu sais, c'est chez l'humain.
La fatigue?
C'est en lien avec la nourriture.
La faim?
Oui, donc mon premier, c'est...
La faim.
Voilà. Donc mon second, c'est un truc où tu dois te coltiner tous tes collègues pendant une semaine pour le faire.
La colo?
Non, c'est aussi des formateurs qui te lâchent pas, même la nuit.
Le NPJJ?
Non, mais c'est où c'est soupe tous les soirs, mais des repas excellents.
Pas le NPJJ.
Ouais, voilà. Un truc où tu ris, tu cries, tu pleures, tu écris, tu écoutes, tu enregistres, tu t'investis, tu te surpasses. C'est quelque chose que tu viens juste d'entendre et qui te rend fier.
C'est bon, j'ai deviné. Une émission de radio.
Et du coup, mon tout, c'est quoi?
Vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. C'est sans peur et avec joie que Cassandre,
Camille SBB,
Gretou,
Manu,
Aurélie,
Audrey,
Charlotte,
Camille,
Guylaine,
Myriam
et Sarah vous ont concocté cette émission.
On remercie Michel pour avoir su nous encourager, nous protéger et nous faire pleurer. Enfin, surtout Greta et Audrey.
L'ensemble des sapeurs-pompiers de Ganges nous a fait partager leur vocation et Régine de l'étrier des Cévennes pour nous avoir donné une belle image de la vie.
Et enfin, Jean-Jacques et Guillaume, alias DJJ, de l'association Wakadi de Montpellier.
Et n'oubliez pas, ok, on a tous des peurs.
Certaines graves, certaines drôles.
Elles peuvent te bloquer, ça c'est clair.
Mais vous l'avez compris, en écoutant cette émission, qu'on peut tous essayer de la dépasser.
À bientôt.